Allez, débutons cette semaine ensemble avec une tempête de sable qui a provoqué de nombreux
accidents. C'est de l'air saharien qui est remonté sur notre pays en provenance directe du Sahara.
Un vent chaud, sec, qui souffle du désert, qui ramène donc ce sable.
Et avec un vent du sud particulièrement dynamique, d'un nuage de sable.
Il faut savoir que cette tempête...
C'est le vent de l'histoire qui souffle ce soir sur le rendez-vous en direct sur France Culture. Il sera question du Mali, de la Russie, du djihad, de la révolution, de Touareg, de bibliothèque et même de la vache GPS. Avec Abderrahmane Cissako qui signe Timbuktu, un film engagé sur l'occupation de Tombouctou par les islamistes radicaux. Un cinéma lyrique porté par une tension documentaire, Lucille Comeau.
Portrait d'un cinéaste d'abord formé en URSS et inspiré par les plans larges et les lumières du western Spaghetti.
19h30, c'est le questionnaire autoportrait du lundi de Manu Farine. Ce soir, ce sera l'éditeur Frédéric Martin. Et puis 19h35, plateau Russie avec Olivier Rollin qui publie Le Météorologue, où l'histoire d'un innocent moyen arrêté en 1934 et déporté aux îles Solovski dans un ancien monastère, premier goulag, Manu Farine.
Tombeau pour un innocent moyen, donc, ou comment revenir à la mythologie révolutionnaire, au tropisme russe d'Olivier Rollin et à une conception historique du monde.
Mais d'abord, c'est l'actualité culturelle, le journal de la culture de Zoé Sfez, que l'on ouvre bien sûr sur le son du jour. اسم لاكارت خير جمد هوية بين ملك مارشي ولا شي جد مد وهذا جوان هالك ليا صح شي كنعاونو بيه الاقتصاد لك جا ماشي وياك ما Bonsoir Zoé Sfez.
Bonsoir Laurent, bonsoir à tous.
C'est votre son du jour.
C'est mon son du jour, c'est une chanson du rappeur marocain Mouad Belraouad, alias Ihaked, ce qui veut dire rancunier en arabe. Il est considéré comme l'un des leaders du mouvement pro-réforme au Maroc. Il a été arrêté, emprisonné plusieurs fois pour cette chanson et puis pour d'autres choses. La dernière fois qu'il a été arrêté et interpellé, c'était en marge d'un match de football. Il avait été condamné à 4 mois de prison pour ébriété sur la voie publique. Ses défenseurs dénonçaient des procédures abusives pour museler le rappeur. Après avoir purgé sa peine, il avait fait appel pour le principe. L'ONG Human Rights Watch avait prévenu qu'elle serait extrêmement attentive au verdict, dénonçant des procédures jusque-là complètement inéquitables contre lui. Et bien la cour d'appel de Casablanca vient de confirmer ce lundi sa condamnation.
Et tout de suite, eh bien, on part à Grenoble pour le dossier du jour. La ville surendettée a annoncé vendredi dernier qu'elle allait annuler sa subvention aux musiciens du Louvre de Grenoble, l'une des formations musicales françaises les plus réputées à l'étranger et à laquelle la ville était liée depuis 1996.
Oui, alors cet ensemble est emmené par un directeur musical de renom, Marc Minkowski, et elle bénéficiait d'une convention entre l'État, la région, le département et donc la ville de Grenoble, qui l'a subventionnée à hauteur de plus de 400 000 euros. Et vendredi dernier, donc, l'adjointe aux cultures de la ville, Corinne Bernard, a annoncé que la ville n'avait tout simplement plus les moyens de donner cette subvention. Écoutez-la.
Avec les baisses de dotation d'État, nous n'avons plus les moyens d'avoir un orchestre international à Grenoble. Mon budget, c'est 34 millions, dont 19 millions de masse salariale. On a un réseau de 14 bibliothèques, plus 8 associés. On a un conservatoire à rayonnement régional. Et effectivement, on a dû faire un choix extrêmement difficile. D'autres auraient fait moins 10, moins 15% à tout le monde. Nous, nous avons préféré essayer avec les musiciens de trouver d'autres solutions, d'autres villes qui pourraient les accueillir, qui auraient un endettement moins important que la ville de Grenoble. Là, on est dans le top 10. Ou alors de travailler avec un budget différent, puisque leur budget passe de 3,7 à 3,2. Et il me semble qu'on peut quand même continuer à faire des productions, des coproductions à l'international, à vendre ces spectacles.
Les musiciens du Louvre ont-ils vraiment besoin d'une telle subvention alors que leur formation a bien d'autres sources de revenus, Zoé ?
Oui, c'est ça, puisque là, elle le disait, le budget de cette formation passerait donc à 3,2 millions d'euros, ce qui n'est pas rien. La formation produit énormément de disques, elle est très présente à l'étranger.
Mais enfin, les disques, on sait très bien que ça ne fait plus vivre personne.
Tout à fait, voilà. Alors finalement, est-ce qu'elle ne pourrait pas tout simplement survivre sans ce travail au niveau local et sans cette subvention de cette ville au bord de l'asphyxie ? Pour Savine Terret, qui dirige l'association Les Musiciens du Louvre, pas du tout, écoutez-la.
En fait, c'est quand même un équilibre fragile entre des subventions, entre une activité effectivement d'autofinancement, mais tout ça est très lié. Il y a quand même 5 musiciens permanents, 11 salariés administratifs. Tout est lié. On ne peut pas dire juste parce qu'on enlève, tant pis, ils ont d'autofinancement. C'est pas vrai, c'est faux. C'est un peu ce que je regrette et ce que je déplore, c'est qu'on n'a rien vu venir et qu'on l'a pris le 5 décembre pour le 1er janvier. Et puis surtout, surtout, c'est quand même nier tout ce travail de terrain qui est fait ici à Grenoble. Que les Grenoblois se sont exprimés sur cette décision, je ne pense pas. Mais c'est très important, ça, à mon sens, avant d'en arriver là, que les Grenoblois puissent avoir une position sur ce qui se passe.
Voilà, alors quoi qu'il en soit, la région, l'État et le département se sont a priori engagés, eux, à continuer à subventionner la formation, même sans la ville de Grenoble. Et une concertation a lieu en ce moment même, avec notamment Marc Minkowski, qui dirige la formation, avec toutes les tutelles pour essayer de voir quelles solutions sont possibles.
Et l'on passe tout de suite eh bien, aux brèves, Zoé.
Et l'on ouvre avec le bilan excellent des transmusicales de Rennes. Le festival rennais qui a commencé mercredi et s'est achevé hier vient d'établir la plus grosse affluence de son histoire. 64 000 personnes sont venues sur ces 5 jours. Les soirées de vendredi, samedi et dimanche affichaient complet. Une hausse de la fréquentation d'autant plus significative qu'il n'y avait pas de grosses têtes d'affiche cette année comme Stromae l'an dernier. Parmi les artistes les plus acclamés, Voodoo Game, Lidzoo, Too Many Zoos et Jeanne Hadet que nous avions reçu dans le rendez-vous.
Une disparition au niveau de la littérature grecque.
Oui, c'est l'écrivain Ménis Koumandareas. À 83 ans, il était l'un des auteurs les plus célébrés du pays. Il était aussi notamment le traducteur d'Hemingway en grec. Son corps sans vie a été retrouvé chez lui samedi soir, alors qu'il était attendu à une soirée. Selon l'autopsie, il aurait été étranglé. Ses obsèques auront lieu vendredi.
Il avait 83 ans. Un collectif d'artistes dépose un référé contre l'exposition Exhibit B.
Oui, ce collectif veut obtenir l'interdiction de ce spectacle du Sud-Africain Brett Bailey qui se joue depuis hier au 104 à Paris. Il juge ce spectacle qui, je le rappelle, représente une forme de reprise des os humains du 19e siècle pour mieux les dénoncer. Il trouve justement ce spectacle raciste. 20 000 personnes ont déjà signé une pétition pour qu'il soit annulé et de nombreux manifestants avaient perturbé les représentations qui avaient eu lieu la semaine dernière au théâtre Gérard Philippe de Saint-Denis.
La dernière.
C'est une histoire de théâtre, de crise économique, de fesses et de TVA. Et oui, tout ça ensemble. En Espagne, pour soutenir le théâtre, les spectateurs sont invités à acheter du porno. Je vous explique tout ça. C'est une metteuse en scène, Karina Garantiva, et qui a eu une idée à la fois fonctionnelle, militante et puis assez choquante pour permettre à sa compagnie de survivre. Elle a donné dans les billets de son dernier spectacle sont glissés dans des magazines porno. Alors vous allez me dire, pourquoi ? Pourquoi ? Tout simplement parce que le gouvernement espagnol est engagé dans un plan d'austérité drastique, vous le savez certainement. Et il a donc décidé en septembre 2012, il y a 2 ans, d'augmenter énormément la TVA sur le spectacle vivant. Elle est passée de 8 à 21%. Donc ça, c'est sur le théâtre, la musique, le cinéma. La presse, les magazines, elles, quel que soit leur contenu, sont toujours soumis au même taux, c'est-à-dire 4%. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Karina est tombée comme ça sur une occasion. Elle a eu un énorme lot de magazines porno des années 80 et 90. Aubaine, elle a tout racheté pour une bouchée de pain et elle a fait changer les statuts de sa compagnie pour qu'elle devienne non pas une compagnie de théâtre, mais une société qui distribue des magazines porno. Ce qui fait que du coup, on achète donc un magazine porno avec du théâtre en dessous, on bénéficie d'une TVA à 4 et pas à 21%. Tout le monde est donc content, ça coûte moins cher pour tout le monde et surtout, ça fait beaucoup, beaucoup réagir et c'était ça le but.
Est-ce qu'il y a des réactions à ce que l'on vient d'entendre de la part de nos deux invités, Abderrahmane Cissako, Olivier Rollin ? Abderrahmane Cissako ? Ah, ça y est, ah, il se refile la patate, c'est pas possible.
Non, j'aime lorsque les gens trouvent un moyen de se battre, d'imposer les choses, le bon sens en fait. Lorsque l'État se faufile comme ça ou voilà, ne joue pas son rôle avec des prétextes de priorité, etc. pendant des moments de crise, que cette fille trouve cette solution-là, je trouve ça formidable.
Olivier Rollin.
Non.
C'est aussi cette information qui a retenu
oui,
votre attention.
Oui, je trouve ça marrant. Au début, j'ai pensé que ça allait être plutôt un peu vulgaire, que pour attirer les gens voilà. Au théâtre, il fallait...
Par le porno.
Mais hein. En fait, non, pas du tout. Je trouve ça drôle, spirituel.
C'est
oui,
créatif.
Oui, très créatif.
En parlant de crise, Abderrahmane Cissako, vous aviez créé une association pour la sauvegarde des salles de cinéma en Afrique, en voie de disparition, on le sait, notamment dans les petites villes. Comment ça se passe depuis ? Où on en est aujourd'hui dans le nombre de salles de cinéma ?
Ah non, non seulement... Bon, c'est dans les grandes villes, parce que le vrai problème, c'est que même dans les grandes villes, les salles disparaissent. La dernière salle de cinéma, le Paris, qui était à Dakar, n'existe plus depuis 4 ans. Donc c'est triste. Et nous, notre projet, qui était le Soudan Ciné, s'est arrêté avec la crise malienne, avec le coup d'État, l'occupation djihadiste du Nord Mali. Tout a été gelé. Toutes les subventions qui étaient possibles pour ça. Et après, il fallait attendre les élections pour qu'il y ait un nouveau État au Mali. Et maintenant, le projet peut répartir probablement sur d'autres lieux.
On va parler de votre film dans un instant. Comment il est vu Quelles sont les possibilités de voir votre film au Mali ou ailleurs en Afrique?
Mais justement, comme il n'y a pas de lieu, c'est ça le problème. Il n'y a pas de lieu, il n'y a pas d'écran, très peu. Il en existe quelques. Donc la visibilité du film va être pas très grande. Voilà, comme d'autres films d'ailleurs. Hein. Et c'est un peu triste. C'est un peu comme ce sujet espagnol où l'État, encore une fois, n'est pas présent dans les États africains pour considérer véritablement que la culture n'est finalement pas un sujet secondaire et qu'il faut, voilà, il faut le mettre au devant. Ce n'est pas le cas.
Le rendez-vous.
Couvre-moi ça. Qu'est-ce que tu fais là?
Rien.
Amenez-la.
Plateau Mali avec vous, Abderrahmane Cissako, cinéaste, un parcours qui commence au début des années 90, avec mercredi prochain la sortie en salle de votre cinquième long métrage, Timbuktu, sélectionné lors de la dernière édition du Festival de Cannes. Alors au cœur du film, une famille, celle du berger Touareg Kidane, qui vit dans le désert, non loin de Tombouctou, au moment même où les djihadistes font la loi dans les rues de la ville, avec des séries d'interdictions, le voile bien sûr pour les femmes, les gants quand elles sortent, interdiction d'écouter de la musique, de jouer au foot, même la longueur des pantalons des hommes et quelques au-dessus de la cheville. Kidane, lui, reste à l'écart jusqu'au jour où un pêcheur tue sa vache préférée pour protéger ses filets de pêche. Alors, l'élément déclencheur, on l'a lu un peu partout, hein, c'est que vous l'avez placé au centre de votre film, c'est la lapidation en juillet 2012 d'un jeune couple enterré jusqu'au cou. Je sais que cette scène dans le film vous a posé problème en termes de réalisation. Quelles sont les questions qui se posent à l'homme de cinéma pour une telle séquence, Abderrahmane Cissako?
D'abord, ce qu'on ne dit pas vraiment, c'est moins la lapidation que l'indifférence autour de la lapidation. C'est ça. C'est-à-dire, lorsque on s'intéresse moins à un événement comme ça, qui est une forme de mise à mort, qui est encore possible, qui existe aujourd'hui, lapider à mort un couple, c'est un homme, une femme. En tout cas, dans le sens classique, et qui s'aiment et qui ont eu des enfants et qui sont lapidés à mort et que cela passe inaperçu. Voilà ce qui crée la révolte. Et vous disiez la deuxième, c'était oui. Par rapport...
Pourquoi avoir hésité avant de la tourner? Quelles étaient les questions de cinéma même,
de cinéma, de ouais. Questions de cinéma. C'est très juste parce qu'on sait que l'évocation de la violence, pour moi en tout cas dans le cinéma, est quelque chose de très complexe et de dangereux parce qu'on banalise la mort, on banalise le sang. On voit dans des cinémas, dans des films... populaires, dont les gens ont accès, même les enfants. Mmh. Ce sont des films violents qui évoquent la mort et tout devient un peu banal. Et lorsqu'on a un sujet comme ça, où la violence est là, parce que c'est ça, l'occupation du djihadiste a été une violence un matin, hein, avec les lois que vous venez de citer, et avec des mains qu'on a coupées souvent, des pieds, et lapider des gens, flageller, etc. Et quand on veut évoquer ça, on doit réfléchir, créer une distance, voilà, trouver la forme. Voilà, la forme juste pour qu'il y ait, pour que la violence puisse être perçue de façon, je dirais, plus par l'émotion que par le spectaculaire. Donc moi, j'ai beaucoup réfléchi sur ça. Ça a été un problème pour moi. J'étais prêt à abandonner la scène même de la lapidation parce qu'au début, je voulais faire de l'animation. Montrer ça en animation.
Ah oui, cette séquence-là en animation.
Je voulais. Après, j'ai eu un peu peur. J'ai dit, bon, ça va être une histoire de style. Voilà. Et si tout d'un coup, je ne suis pas en adéquation avec ça, après avoir travaillé près de 9 mois, parce que l'animation, ça se fait pas si vite, que j'allais abandonner. Et là, j'ai décidé de le faire en film, tourné, mais en trouvant la forme que certains verront, et qui est mettre la distance par rapport à ça, créer une émotion, et voilà.
Une scène très montée, très découpée. Olivier Rollin, ce genre de questions, ça se pose aussi quand on écrit? Est-ce qu'on peut abandonner un livre en fonction d'une scène qu'on aurait du mal à travailler?
Oui, ça se pose. Enfin, à vrai dire, ça m'est un peu arrivé, mais en tout cas, je suis complètement d'accord, et j'ai vu le film d'Herman Cissako, et j'ai lu aussi quelques... propos de lui, et je viens de l'entendre, et je suis très admiratif du film, mais aussi de, justement de ce scrupule moral. Et je, enfin oui, il faut, oui, c'est un scrupule moral, oui, esthétique et moral. Enfin voilà. Et je pense en effet que pour laisser place à la pensée, enfin à la réflexion, il faut qu'il n'y ait pas une trop grande un trop grand absolutisme de la pure image, quoi. Je crois qu'il y a un côté oui, voyeur, etc., qu'il faut éviter en littérature comme au cinéma, si l'on veut réfléchir un peu, quoi. Et donc j'admire ça.
Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué plus particulièrement dans le film ?
Bah, j'ai été sensible à l'histoire d'un père avec sa femme et sa fille, puisque c'est un peu la même histoire que je raconte dans des circonstances tout à fait différentes. Mais non, il y a beaucoup, enfin, je veux pas avoir l'air trop flatteur, mais il y a beaucoup de choses qui m'ont frappé. Oui, bien sûr, le match de foot sans ballon, c'est formidable.
Puisque c'est interdit, en effet, les jeunes se regroupent au village, jouent au foot, mais il n'y a pas de ballon.
Il n'y a pas de ballon, c'est absolument formidable, cette chorégraphie. Bon, enfin, ce sont des choses qui vont être dites qui ont déjà été dites dans les critiques, mais là, la poissonnière qui dit, je ne peux pas vendre des poissons avec des gants, etc., coupez-moi les mains. Enfin bon, il y a énormément de choses qui m'ont... Aussi peut-être le fait... parce que c'est vrai que c'est un film qui évite les lieux communs, enfin... Et par exemple, le fait que finalement ces abrutis, là, ces djihadistes, là, soient plus des abrutis, des idiots, des gens sans pensée, quoi, que des... Enfin, ils sont des... Bon, si, ce sont des salauds, mais ils ne sont pas montrés comme des monstres, ils sont montrés plutôt comme des crétins. Et je pense que ça, c'est assez... C'est pas évident de faire ça, et c'est probablement... pour beaucoup, ça doit être assez juste.
Abderrahman Sissako, la scène de foot qui est mimée, c'est quelque chose que vous avez vu? Ou c'est un souvenir de cinéma, de blow-up avec la scène du tennis?
Je voulais d'abord très sincèrement remercier Olivier Rollin pour avoir mis l'accent sur la relation père-fille. Je pense que ce sens du film est souvent occulté parce qu'on est dans l'actualité, le djihad, etc. Mais une raison fondamentale pour moi, c'est quand même ça qui est important. Pour revenir à la scène du football, c'est quelque chose, tout comme une autre scène, ça a été très important pour moi de penser en réfléchissant comment je vais montrer dans ce film-là la résistance des gens simples, la résistance dans Tombouctou. Et lorsque tout d'un coup, un jour, les gens ne peuvent plus chanter, danser et jouer, qu'est-ce qu'ils font, comment ils vivent. Ça, c'est important pour moi. C'était important de montrer une population dont on a très peu parlé pendant l'occupation. Et il y a eu et continue à avoir dans la presse en général cette identification à la victime qui est que si la victime ne me ressemble pas, j'en parle peu. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Donc, pour moi, et la scène du football, c'était vraiment matérialiser la révolte pacifique des gens, des jeunes. Voilà. C'est pourquoi j'ai imaginé cette scène de football sans ballon de façon peut-être intuitive comme ça ou inconsciemment parce que parfois, voilà. On me rappelle la scène d'un blow-up
et la scène du tennis
peut-être que je l'ai intégrée un jour quand je l'ai vue. Hein. Et c'est bien comme ça aussi qu'on intègre les choses magnifiques. Bref, mais là, c'était vraiment pour moi comment matérialiser ça.
Lucille Comot.
Vous aviez pensé pendant un premier temps faire un documentaire, un exercice d'ailleurs que vous avez déjà exercé. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis finalement ?
Ce qui m'a fait changer d'avis, le documentaire était construit sur la base, je le citais, de faire de la lapidation de l'animation et construire la parole autour de ça. Ce qui m'a fait changer d'avis, c'est que j'avais envoyé quelqu'un à Tombouctou pendant l'occupation, un journaliste pendant l'occupation, parce que je ne pouvais pas y aller pour des raisons, bon, je ne vais pas forcément citer ici, mais je ne pouvais pas être à Tombouctou, moi. C'était dangereux pour moi d'y être. Et lui, il est allé avec, on a organisé de sorte que les trois groupes qui sont là-bas, en Sardine, Acmi et Moujoua, l'acceptent. Et ils l'ont accepté facilement d'ailleurs, donc il est arrivé. Et quand il est arrivé et que j'étais en contact avec lui quotidien, deux, trois fois par jour, voilà, pour suivre un peu. Voilà. Et donc il me disait très, très, très vite que c'est difficile pour lui parce qu'il est accompagné toujours par un djihadiste armé. Et donc finalement, il n'a personne dans la ville qu'il peut interviewer. Donc, j'allais faire un documentaire où la parole n'était pas libre, et seuls les djihadistes pouvaient parler, voulaient parler, et donc je ne voulais pas être manipulé par une parole comme ça. Je ne voulais pas faire l'envoyé spécial, voilà, pour parler d'une chose comme ça. J'ai tout de suite arrêté, surtout que pendant que lui, il était là-bas, il s'est passé quelque chose qui est devenu le sujet du film, c'est l'exécution d'un berger, voilà, à Tombouctou. Et il m'a parlé de ça, et là, j'ai commencé à écrire la vie de ce berger que je n'avais jamais connu.
Lucille ?
À propos de la représentation justement des djihadistes, dans la première partie du film, on voit un très jeune djihadiste noir, chèche sur la tête, il est assis en tailleur sur un tapis devant une caméra, dans un exercice qu'on connaît bien désormais parce que ça circule beaucoup sur le net. Il doit encourager des autres comme lui à s'engager. On écoute l'extrait.
Ré, Talar Daou. Alimine. Mambi, c'est moi que tu regardes. Talar.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salam alaikum mes frères. Vous savez, le prophète a dit, la Oumma est comme un seul corps. Et quand une partie a mal, l'autre est là pour la sauver. Autrefois, je faisais de la musique. Je faisais du rap. Autrement dit, j'étais dans le péché. Mais grâce à l'aide de Dieu...
Le problème, c'est que t'es pas concentré. Je ne sens aucune conviction dans ce que tu dis. T'es convaincu de ce que tu es en train de dire, là?
Non,
ben voilà, donc il faut me le dire directement, c'est pas la peine qu'on se casse la tête à filmer.
Pousse-toi, va, on passe.
Les frères, avant j'étais dans le rap. Aujourd'hui, alhamdoulilah, je suis sur la voie de Dieu, la voie du djihad. Et blablabli, et blablabla. Tu vois, mon regard ne bouge pas, il n'y a aucun geste parasite. Je suis convaincu de ce que je dis. Donc c'est comme ça que tu dois dire. Mais il n'y a pas de ça, ni de ci. Il n'y a pas de yoman, tu vois, on n'est plus dans le yoman, là. On est dans le din, mon frère. Allez, viens.
Les djihadistes utilisent eux-mêmes beaucoup l'image, se filment entre eux, filment aussi leurs crimes, bien sûr. Est-ce que c'est une réflexion que vous avez eue, vous ? Comment filme-t-on des gens qui se filment sans cesse ? Abderrahmane Cissako.
Non, ma réflexion, c'était de montrer tout de suite que dans le combat des djihadistes, il y a la maîtrise de l'image. Hein. Ils ont compris ce qui sert. Dans le mental en Occident, donc il faut, quand on met quelque chose sur YouTube, c'est réfléchi, c'est pensé, voilà. Ce concept est important pour moi, voilà, de montrer comme ça. Mais ce qui est le plus important, c'est être arrivé à montrer un jeune dans sa fragilité, voilà, comment des gens, et là, en l'occurrence, vous l'avez dit, c'est un jeune noir, mais français, mais ça aurait pu être un normand, voilà. Et comme on en voit, ils partent souvent. Voilà. C'est la fragilité humaine qui amène les gens qui vont se documenter et qui partent pour un combat qui n'est finalement pas leur combat. Hein. Il n'y a pas de conviction. Il y a pas de, voilà, ils partent comme ça. Et c'était important pour moi de faire le portrait de gens qui sont nos voisins, qui nous ressemblent, etc. Ça, c'est important. Et de l'autre côté, il y a aussi une petite phrase, hein, elle est glissée, là on ne l'a pas entendue, mais ça va venir, et qui est aussi importante dans cette séquence de vidéo filmée, c'est lorsque, effectivement, le réalisateur, disons, entre guillemets, dans la séquence vidéo, il lui dit, mais t'es pas convaincu, dis-moi, et contre qui tu te bats? Et l'autre répond, contre les Occidentaux. Il dit, non, tu te bats contre l'injustice. Et ça, c'est important, voilà, qu'on ressente comme ça.
Il n'était pas possible de tourner le film à Tombouctou. Pour quelle raison, Abderrahmane Cissako ?
Tout simple. Hein, il y avait, donc, le film a été préparé pendant l'occupation. Après, il y a eu la libération, disons, de Tombouctou. Je suis allé à Tombouctou beaucoup plus pour me nourrir, hein, parce qu'écrire une occupation de loin... Ah. Voilà, c'est un acte pas très juste parce qu'il faut écouter ceux qui ont vécu. Donc je suis allé à Tombouctou pour ça. J'ai changé mon scénario beaucoup. J'ai rencontré la vendeuse de poissons en vrai. Voilà, j'ai rencontré l'imam qui est dans le film. Des gens pour nourrir mon histoire. Et j'étais prêt à tourner à Tombouctou, naïvement d'ailleurs, parce que... Il fallait penser que les choses ne sont pas si stabilisées et si faciles. Et un mois avant le tournage, il y a eu un attentat suicide à Tombouctou. C'était le 29 septembre. Moi, j'ai tourné en octobre devant la garnison. Donc, il fallait pas mettre en danger l'équipe qui était composée de gens qui venaient d'un peu partout. Et nous sommes partis en Mauritanie, voilà, avec l'aide de l'État et... on a pu tourner à Walata, qui est une ville jumelle qui ressemble beaucoup à Tombouctou.
Alors, on a parlé des hommes, mais le film fait aussi le portrait des femmes, et notamment d'un personnage étrange. C'est une femme habillée de couleurs, de toutes les couleurs, sans voile, avec un coq sur l'épaule et qui se livre à d'étranges rituels. Un personnage inspiré, j'ai pu lire, d'une vraie femme, Zabou, une ex-danseuse du Crazy Horse qui vit à Gao. Vous l'avez rencontrée ?
Et pas personnellement, mais j'ai rencontré Zabou la première fois dans un projet documentaire d'un ami cinéaste à moi, qui n'a pas finalement fait ce documentaire. Et j'avais envoyé, et donc ça c'était il y a 15 ans, 20 ans. Mmh. Et là, mon journaliste qui était à Tombouctou est allé à Gao. Zabou faisait partie des gens que je voulais interviewer. Il est allé à Gao. Zabou est bien vivante à Gao. Il l'a interviewée. Elle était, voilà, j'ai vu les rushs. Elle était toujours belle, toujours élégante, toujours en robe magnifique comme ça et pas couverte. Et donc, ça voulait dire, pour moi, j'ai dit, ah, voilà une femme libre, belle, qui porte des bijoux, la seule dans la ville qui porte des bijoux. Donc, la seule qu'on accepte telle que la femme peut être, en tout cas, si elle fait le choix de porter les bijoux et de ne pas se couvrir la tête. Et donc, elle était pour moi tout ce qui était interdit. Elle était la liberté même. Voilà.
Mais comment elle garde ce statut ?
Parce que, vous savez, la folie, il faut la relativiser aussi. Hein. Voilà, ceux qui disent que l'autre est fou, voilà, c'est relatif. Pour moi, Zabou est une belle personne qui a changé de vie, qui est là et bon, est respectueuse. Et c'est ça le plus important.
Et là, il y a un choix de casting absolument excellent, puisque c'est Kathleen Noël qui joue cette femme. Kathleen Noël, elle est elle-même danseuse, chorégraphe haïtienne, était installée à Bamako il y a une quinzaine d'années. On a vu ici plusieurs de ses spectacles en France. On l'avait même reçue ici à France Culture, une femme forte avec une voix incroyable. Quand vous la choisissez pour ce film, est-ce que c'est aussi pour ce qu'elle représente au Mali ?
Absolument, absolument. Parce que déjà dans Bamako, mon film précédent, je voulais que Kathleen Noël soit là, d'une certaine façon. Je l'avais rencontré, je lui avais dit un jour, est-ce que tu peux inventer pour moi un pas de danse qui est un proverbe malien qui dit que c'était pour montrer la crise au Mali. Et ça s'appelle la danse indansable. La danse indansable, c'est quand tu fais un pas en avant, ton père meurt, un pas en arrière, c'est ta mère, et si tu restes debout, c'est toi qui trépasses. Comment un danseur peut imaginer ça? Donc, je discutais de ça avec Kitli. J'ai dit, bon, je sais que c'est compliqué. Bon, bref, ça ne s'est pas fait parce qu'elle m'avait impressionné de par sa personnalité, de par son choix de vie à Bamako. Et aussi, pour moi, elle était l'exemple de ce qu'est véritablement l'exil. Que parfois, de façon trop légère et superficielle, on pense que les exilés qui viennent en Europe, c'est eux les exilés. Et qu'il y a un exil dans l'autre sens aussi. Tout est exil, tout est rencontre. Et donc pour moi, Kathleen, elle matérialise ça et elle a fait un travail sublime. Donc quand je décide de faire Timbuktu et que je pense à Zabou, voilà, pour moi, c'était logique.
Oui.
Comme tous les jours, Abderrahman Sissako, on demande à nos invités de nous suggérer un son et vous, vous avez choisi ça. Identification de ce son et la raison pour laquelle vous l'avez choisi.
Et c'est un animal que j'aime énormément. Cet animal est très orgueilleux, très digne. C'est un animal qui est capable de se fâcher toute une journée parce qu'on lui a dit un mauvais mot sans le toucher. Et c'est un dromadaire. Voilà. Moi, j'aime beaucoup le dromadaire.
Le rendez-vous. Extérieur. Extérieur.
Abderrahman Sissako, Olivier Rollin, on vous retrouve dans quelques instants. Mais tout de suite, c'est le questionnaire autoportrait illustré par Manou Farine qui rencontre un invité pendant le week-end. Et ce soir, c'est un éditeur, Frédéric Martin, Manou.
Éditeur et fondateur des éditions Tripode en 2013. Hein, c'est tout frais. Éditeur notamment du Sade vivant de Jean-Jacques Pauvert, très bientôt de L'homme qui s'aime de Robert Alexis. Et je l'ai rencontré tout à l'heure à la Maison de la Poésie, en plein colloque consacré à Jacques Abeille, qu'il publie également.
Questionnaire édition littérature, Manou Farine, Frédéric Martin.
L'auteur ou le livre de votre adolescence ?
Jules Verne, 20 milieux sous les mers. On est au supermarché et traditionnellement, quand on allait au supermarché avec mon père, au moment d'arriver aux caisses, Pendant qu'il faisait la queue, il me donnait une pièce de 10 francs et j'allais m'acheter des bonbons. Et une fois, je suis revenu non pas avec un paquet de bonbons, mais avec 20 000 lieues sous les mers. Et là, je vois son visage et je dis régulièrement que c'est à ce moment-là que j'ai compris que j'avais découvert mon territoire. Ça, c'était à moi.
La littérature que vous associez à vos parents ?
Télé 7 jours.
Le roman ou l'auteur qui a pu vous donner envie de faire ce métier ?
L'art de la joie, Sapienza. Parce que c'est un roman qui avait été refusé. C'est un roman donc, d'un auteur italien qui est mort dans un anonymat quasiment complet. Et ce texte-là en particulier, un roman monstre de 500 pages, avait été refusé pendant 20 ans par tous les éditeurs italiens. Et je tombe vraiment amoureux de ce livre, avec la trouille au ventre de ne pas réussir à le faire lire, parce que c'était probablement la dernière chance pour cet auteur de naître. Et ça a été un bouleversement, non seulement pour moi, mais pour des milliers et milliers de gens. Et depuis cette époque, je sais que je publie des livres pour les protéger.
Un éditeur qui aurait pu fonctionner comme modèle ou référence pour vous ?
Mon maître a été Jean-Jacques Pauvert. J'ai eu la chance de travailler sur ses mémoires quand j'étais aux éditions Viviane Ami. Et ça a été l'autre choc de ma vie avec Goliarda Sapienza. En l'espace de quelques mois, j'ai lu tout le catalogue d'un des plus grands éditeurs français du XXe siècle. Je pense que j'étais très snob ou très con avant de le rencontrer. Et c'était un homme qui était capable de publier la Comtesse de Ségur comme le Marquis de Sade, qui était capable de prendre du plaisir dans des dessins de Wolinski comme dans une nouvelle édition de l'Histoire de l'art d'Elifort. Il m'a vraiment déniaisé sur le désert.
L'auteur que vous aimiez, que vous n'aimez plus ou que vous aimez moins?
Si je relis un oui-oui aujourd'hui, je pense que je n'aurai pas la même émotion, mais je suis très fidèle à l'émotion que Oui Oui m'a donnée.
L'auteur que vous avez fini par aimer?
Alors, il y a des auteurs qui ont été difficiles, hein, qui vous domestiquent, et c'est peut-être les auteurs que je préfère. D'ailleurs, je pense à Arnaud Schmitt, Joyce, Jarry. Ces auteurs qui vous apprennent une langue qui, au départ, ne vous dit absolument rien, ils ont cette capacité de vous sortir de vous-même par la force des choses, parce que sinon, vous ne comprenez pas ce que vous lisez, et qui, en même temps, vous rappellent à quelque chose qui vous semble avoir été de toute éternité en vous.
Le livre que vous n'avez toujours pas terminé ?
Progéniture de Guillotat, qui est un livre très ample, où là aussi la langue est extrême. Sa sensibilité, pour le coup, est assez éloignée de la mienne. Mais je sens que c'est important. Donc régulièrement, je replonge dedans et je n'ai jamais eu la force d'aller jusqu'au bout.
Le livre que vous relisez ?
Je relis régulièrement La Grande Bonne de Michon, du Ponge. Mais là, c'est presque comme du décapage. Ça décrasse un peu la langue. J'aime énormément, puisque je parlais de Jarry, Le Surmal, qui est un texte qui me rend heureux.
Le livre que vous avez honte d'aimer?
J'ai jamais honte d'aimer. Et il y a des choses terribles que j'aime. J'adore, par exemple, un livre que j'ai réédité, qui est La vérité sur Max Lampin, qui est vraiment le tout premier ouvrage de Topor. Et même Topor en avait honte, paraît-il. C'est essentiellement du dessin, mais pour moi, c'est un texte. Max Lampin, c'est le bouc émissaire. Et Topor lui fait subir les pires choses. Max Lampin est une ordure, Max Lampin est une chiure. Enfin, moi, ça me bouleverse parce que ça explique beaucoup de choses, je pense, de Topor. Et je sais qu'il y a des personnes qui ont été gênées quand ils ont vu apparaître ça au catalogue, parce que c'est pas beau.
Un faux chef-d'œuvre.
Belle du Seigneur. Et si je peux y trouver des qualités littéraires, même si je trouve que c'est quand même beaucoup du Joyce dilué, notamment, je reste convaincu que c'est un faux livre, qui n'est pas honnête. Je pense que c'est un livre qui parle d'humanité, qui n'en a pas. Je pense que Cohen n'aimait pas les gens.
Le personnage de littérature que vous auriez pu être ?
Que j'aurais aimé être, Arsène Lupin, je pense.
Frédéric Martin, merci.
Je vous ai senti particulièrement attentif, Abderrahmane Cissako, à ce que l'on vient d'entendre.
Oui, pour quelques raisons. D'abord, qu'on puisse encore parler dans une radio de livres. Je trouve que voilà, c'est quand même des choses à préserver, c'est des choses à... Et puis, il avait une façon de parler des choses qui me faisait sourire. Et voilà, je trouve ça formidable.
Quelque chose vous a marqué dans ce qu'il a dit ?
Oui. Sur l'amour, il a dit qu'il n'a pas honte d'aimer. Voilà. Je trouve cette phrase magnifique.
Olivier Rollin, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a intéressé?
Oui, je suis embêté parce que c'est la même chose.
C'est la même chose.
Cette réplique, j'ai jamais honte d'aimer, oui.
Est-ce qu'il y a, parce que lui, il cite Jean-Jacques Pauvert, qui était comme une sorte de maître à penser pour lui-même. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a eu cette fonction pour vous, Abderrahmane Cissako et Olivier Rollin? Est-ce qu'il y a eu un maître? Ah, il se repasse la patate. Olivier Rollin, est-ce qu'il y a eu un maître pour vous, une référence ou quelqu'un qui véritablement vous a amener vers autre chose.
Non, je ne crois pas. Je ne dis pas ça du tout par prétention. Il y a beaucoup, par exemple, d'écrivains que j'ai admirés, que j'admire toujours. Il y en a aussi que j'ai admiré autrefois, que j'admire moins maintenant, comme lui. Mais donc, voilà, il y a des écrivains que j'ai admis, que j'admire, mais je ne pense pas qu'il m'ait... J'ai écrit sans doute à cause d'eux, mais je n'ai pas écrit comme eux. J'ai écrit moins bien qu'eux, d'abord sûrement, et puis pas comme eux. Donc je ne me sens pas le disciple de quelqu'un.
Abderrahmane Sissako.
J'ai eu une enfance qui n'était pas du tout le livre, en fait. Il n'y avait pas de livre chez nous. On lisait très peu, on lisait presque pas. J'ai lu un peu grâce à un père blanc, le père Nicolo. Et quand j'étais en seconde, donc qui m'a fait découvrir la littérature négro-africaine, que j'ai beaucoup aimé Césaire, France Fanon, l'anthologie négro-africaine, en fait, le William Du Bois. Voilà. Donc ça, ça a été quelque chose de très, très important pour moi, surtout Peau noire, masque blanc de France Fanon. Des livres que je relisais. Donc je me suis limité à quelques livres. Mon père lisait pas, il lisait Le Chasseur français, voilà, qu'il recevait. Et puis il relisait toujours Les Misérables de Victor Hugo, aussi que j'ai lu.
Le Chasseur français. C'est intéressant, tout à l'heure c'était Télé 7 jours.
19-20, le rendez-vous. Rendez-vous. C'est sur France Culture.
Plateau Histoire avec vous, Olivier Rollin, écrivain français, auteur notamment de Port-Soudan, c'était le prix Féminin en 94, de Tigre en papier, prix France Culture en 2013, et vous publiez aujourd'hui le Météorologue aux éditions du Seuil, ou l'histoire d'Alexis Féodosievitch.
Féodosievitch.
Et il a encore un nom.
Van Gengame.
Voilà. Directeur du service hydro-météorologique unifié de l'URSS, arrêté en 1934, déporté aux îles Solovski, au naud-ouest de la Russie, dans la mer Blanche, dans un ancien monastère. C'est un cauchemar. Reconverti en goulag, c'est ça le véritable cauchemar. Le premier goulag d'ailleurs de l'époque est exécuté avec 1116 autres détenus en 1937. Juste une chose à propos de ce métier, météorologue, car votre père l'était, Abderrahmane Sissako, c'est ce que l'on vient d'apprendre tout à l'heure en début de l'émission.
Je lirai absolument ce livre pour deux, trois raisons. D'abord, effectivement, mon père a été météorologue. À 6 ans, je savais ce que c'était un stratocumulus ou un cumulonimbus. Parce que je lui posais la question, mais la pluie, c'est quoi? Comment ça venait? Donc, pour ça, la Russie est quand même un pays extrêmement important pour moi.
Ah ben, vous avez fait vos études de cinéma?
Voilà, qui m'a nourri. Voilà, qui m'a nourri vraiment. Je suis allé au théâtre la première fois en Russie. Le ballet, c'est en Russie. Voilà, j'ai lu la littérature française en russe. Voilà. Donc, comme ça parle de Russie, et ça aussi, c'est très touchant pour moi. Et l'histoire aussi, d'un père et d'une fille. Je pense que la paternité, et surtout quand c'est comme ça, ça ne peut être qu'un livre magnifique. Je ne dis pas ça parce qu'on est face à face, mais quand même, ça touche des choses que je trouve très importantes.
Pendant ces 3 années de goulag, donc ce météorologue va lire, va faire des conférences, notamment une sur les aurores boréales. Il va passer des heures dans l'incroyable bibliothèque qui se trouvait en tout cas dans ce lieu. Il va écrire à Staline régulièrement pour défendre son innocence, à sa femme, à sa fille de 4 ans, à qui il va adresser des dessins, des devinettes, des herbiers pour lui apprendre notamment à compter. Toute une correspondance que vous reproduisez d'ailleurs à la fin du livre, ces lettres vous les avez tenues entre vos mains, aux îles Solovski. Qu'est-ce qui fait de cet innocent moyen, comme vous dites, un personnage littérairement plus intéressant qu'un autre? Pourquoi choisir cet innocent-là, Olivier Rollin?
Mais en fait, bien souvent, quand on écrit un livre, on ne choisit pas... Enfin, on n'est pas comme ça, comme si on avait un rayon de sujets possibles, et puis on va choisir celui-là parce qu'il est plus beau ou moins cher.
Mais lui devait se charger de quelque chose.
Oui, non, mais je veux dire, cette histoire m'est venue par... elle a mis du temps à se former dans mon esprit. J'ai fait plusieurs voyages là-bas. J'avais été frappé par la beauté graphique, d'abord des dessins, des herbiers, etc. Et puis par le côté très émouvant, d'un père essayant de continuer l'éducation de sa fille qui avait 4 ans et demi à l'époque, par le biais de ces lettres que la censure lui laissait envoyer, etc. Donc voilà, et puis j'avais d'abord pensé éditer ses dessins, et puis ensuite j'ai rencontré quelqu'un qui avait connu la fille quand elle avait 70 ans. Donc c'est des tas de petites choses comme ça qui font que finalement un jour on se décide à faire un livre où, enfin, ce livre, ce sujet s'empare de vous. Et j'ai un peu regretté qu'il ne soit pas plus flamboyant, plus héroïque, ce personnage. Mais au fond, je crois que c'est bien qu'il soit comme ça. C'est-à-dire, c'est un honnête homme, c'est un homme qui aime sa fille et sa femme, c'est un honnête homme, c'est un type qui faisait bien son boulot, qui croyait au socialisme. Et pour le reste, c'est pas un révolté.
Alors, en fin de récit, vous consacrez quelques pages à un autre personnage, un certain Mikhaïl Matveïev.
Matveïev, oui.
Le bourreau, l'exécuteur en masse. Oui. Qu'est-ce qui vous intéresse dans cette figure du bourreau, vous qui avez signé une tribune à chaud dans la presse à propos de Mohamed Merah, Olivier Rollin?
Oh non, je ne suis pas intéressé par les figures de bourreau. Mais
vous le consacrez quand même quelques pages.
Quelques pages, oui.
Dans le récit.
À Matveïev,
ouais. Mmh.
Oui, parce qu'en effet, bien sûr, c'est quand même très étrange, très incompréhensible. Enfin, un type qui fait la révolution, on s'imagine que la révolution de 1917 et la guerre civile, bon, on s'imagine si on est... Peut-être si on est un peu ignorant, mais qu'on est porté par des grands idéaux, des idéaux de justice, etc. Et puis en fin de compte, il rentre à la Tchéka, enfin à la police politique, et non seulement il rentre dans la police politique, ce qui n'est déjà pas une vocation si merveilleuse, mais en plus son boulot c'est exécuteur. Exécuteur, c'est pas autre chose, c'est exécuteur. Bon. Et il exécute de sa propre main, dans cette histoire, par exemple, 250 personnes par nuit. Alors, voilà, c'est comment ne pas être estomaqué, enfin, par un personnage comme ça? Comment ne pas imaginer, quand il rentre chez lui, qu'il retrouve sa femme, qu'il a 250 têtes qui ont explosé sous son revolver? Enfin, bon, voilà. Donc, je n'ai aucune attirance, hein, contrairement à...
Ni fascination.
Non, mais il y a beaucoup d'écrivains, ouais. ou de cinéastes, d'ailleurs, pas Abderrahmane Sissako, justement, mais qui éprouvent une espèce de fascination pour les serial killers, etc. Moi, pas du tout. Mais c'est un mystère humain.
Alors, comme à Abderrahmane Sissako, on vous a demandé, Olivier Rollin, d'apporter un son qui vous a marqué, et voici ce que vous avez choisi.
Deuxième titre de ce journal, l'arrestation du gang est soupçonné d'avoir participé à l'enlèvement et à la séquestration du jeune Ilan, qui est mort après avoir été torturé pendant plus de 3 semaines dans un appartement de Bagneux. Le chef de la bande est en fuite. La barbarie et la violence gratuite s'ajoutent à l'attrait de l'argent facile. Sous les verrous ce soir, 13 personnes, de jeunes adultes qui se répartissaient les tâches, tous ou presque ont grandi dans cette cité difficile à Bagneux.
Identification de ce son est la raison pour laquelle vous l'avez choisi, Olivier Rollin?
Je l'ai choisi parce qu'il y a eu tout récemment encore une histoire terrible antisémite.
Bon, à Créteil. Oui.
Voilà, à Créteil. Parce qu'il y a eu l'histoire de Merah, parce qu'il y a eu cette histoire d'Halimi, d'Ilan Halimi. Voilà, parce que je pense qu'on ne... Enfin, je suis... Tous, comment dire... Je pense que nulle part on ne peut tolérer ce genre de choses. Je pense que... spécialement, je dirais, étant donné l'histoire moderne française, étant donné que nous sommes le pays de l'affaire Dreyfus, nous sommes le pays du Veldiv, etc., je pense que nous devons vraiment nous insurger, mais pas simplement en parole, etc., contre ce genre d'horreur qui provient du néant de pensée et de sentiment que Sissako montre aussi dans son film. Enfin voilà.
Manu Farine.
La fin du récit, Olivier Rollin, s'attarde aussi sur votre entêtement à revenir en Russie depuis 30 ans. La Russie, écrivez-vous, c'est le grand large sur Terre. La première fois que vous y alliez, c'est en 86, donc à peu près, j'imagine, dans les mêmes années qu'Abderrahmane Sissako, dans les années 80. Qu'est-ce que vous y trouvez? Est-ce que vous y trouvez ce grand large sur Terre dès 86?
Oui, c'est un sentiment un peu... un peu enfantin pour moi, enfin, qui remonte à l'enfance, mais c'est vrai, voilà, c'est l'immensité sur la carte, l'immensité de ces territoires que je pensais ne jamais connaître, puisque à l'époque c'était fermé. Il y avait le rideau de fer, comme on me disait. Donc il y a d'abord une attirance géographique, voilà, pour ça. Et puis il y a le fait que c'était le pays, enfin, au XXe siècle, ça a été le pays de l'espérance révolutionnaire, et ça a été aussi le pays de la tombe de la Révolution, c'est l'histoire un peu que je raconte dans le livre. Mais c'est aussi pour des tas de choses. Pour la langue que je trouve merveilleusement belle, enfin, qui est une des langues que j'aime entendre. Je ne dirais pas parler parce que je n'en suis pas vraiment capable, mais enfin, bégayer de temps en temps. Et puis pour la littérature aussi. Enfin, pour moi, Tchekhov, par exemple, est vraiment un des auteurs que je chéris particulièrement. Et aussi pour certaines... une certaine qualité d'humanité. Il y a beaucoup d'inhumains en Russie, mais il y a aussi beaucoup d'humanité, d'hospitalité, de générosité, etc. De bonne folie, quoi. Et de fantaisie. C'est pas un pays de voilà. C'est, maintenant, on s'en fait assez facilement. Enfin, les journaux en font assez facilement un pays de brutes nationalistes. Il y a beaucoup de choses beaucoup plus belles que cela dans ce pays.
Mais il y a ça aussi.
Deraman Sissako, vous-même avez été étudiant en URSS dans les années 80, vous avez étudié le cinéma. Qu'est-ce qui vous avait poussé à partir là-bas ? C'était aussi par espérance révolutionnaire ?
Non, pas du tout. Moi, j'aimais jouer au tennis de table au Mali. Je suis rentré en Mauritanie pour vivre, rejoindre ma mère. La seule tennis de table, c'était dans le centre culturel soviétique. J'y allais tous les jours. J'ai découvert les livres russes. Voilà, par le directeur de ce centre qui m'a fait lire des livres. Donc j'ai commencé à me passionner. Et j'ai eu vraiment, vraiment très envie d'aller dans ce pays, hein, en Union soviétique, parce que bon, c'était une opportunité, parce qu'il y avait des bourses, donc on m'a donné la bourse. Je suis parti comme ça, par passion, par envie de connaître autre chose aussi. Hein. Ça a été la Russie, ça pouvait être un autre pays. Et donc je suis arrivé, j'avais 19 ans, j'ai appris le russe, j'ai quitté, j'avais 30 ans. Voilà. Donc une parenthèse dans ma vie très très importante et remplie de choses plutôt positives que négatives. Comme disait Olivier Rollin, c'est un peuple magnifique, il n'y a pas que des brutes, il n'y a pas que ce qui se passe aujourd'hui de façon politique et d'autres choses, et même par rapport aux Africains, hein, ce sont des choses souffrantes. Mais à côté de ça, il y a une humanité très belle et très forte.
Olivier Rollin, la littérature est arrivée tard, en 1983, avec Phénomène du futur, 10 ans après avoir quitté la gauche prolétarienne. J'ai commencé, dites-vous, par avoir presque honte d'écrire, c'était en 2007, d'écrire des romans, dites-vous. Quand est-ce que cette honte a disparu ? La honte d'écrire ?
Elle a disparu en écrivant, progressivement. Elle a disparu en lisant aussi. Je me suis aperçu, surtout en lisant d'ailleurs, je me suis aperçu que c'était pas un divertissement la littérature, c'était pas simplement pour passer le temps ou pour s'amuser ou quoi. Et voilà, quand on apprenait que c'était un des grands moyens de connaissance du monde, de l'humanité. Enfin voilà, que c'était aussi important. Quand j'étais jeune, je pensais, mais c'était, l'époque voulait ça. On était très théoricien, ou en tout cas, on croyait l'être. Et donc, je pensais qu'avec la philosophie marxiste notamment, dans ma jeunesse, bon, qui était porteuse de connaissances. Et je me suis aperçu, oui, qu'il y a autant ou plus... Enfin, il y a une connaissance différente, beaucoup plus fine, beaucoup plus subtile, beaucoup plus ambiguë, beaucoup plus ironique, etc., dans les grands livres que dans un ouvrage de sciences humaines ou de philosophie.
Pourtant, vous avez parlé de vous être résigné à la littérature.
Oui, 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 parce que quand j'ai commencé à écrire, en effet, j'étais encore imbu de ces idées théoriciennes, comme ça. Je pensais que la seule activité de l'esprit convenable, j'aurais pu croire que c'était la musique, par exemple, mais à l'époque, je ne connaissais rien à la musique, c'était de faire de la philosophie. Voilà, c'est ça que je croyais. Et donc, je me suis résigné parce que finalement, je n'étais pas capable d'exprimer mes pensées autrement que par un roman.
Toute petite question, Manu Farine, ce sera la dernière.
Ouais, elle ne sera pas toute petite, c'était juste pour savoir si c'était une coïncidence, parce qu'on recevait récemment Roland Castro et Gérard Miller, donc tous deux tiennent le même discours, c'est-à-dire fin de l'épisode maoïste, quand la question de la lutte armée s'est fait concrète. Tous deux donc, ont vécu une sorte de deuil, tous deux, le salut est passé par la psychanalyse. Est-ce que vous avez eu la même tentation, ou est-ce qu'au fond c'est le roman, qui a permis de tout résoudre?
Pas le moins du monde, je ne suis jamais passé par la...
La case psychanalyse,
je pense, finalement, il n'y en a pas tant que ça dans le milieu intellectuel, mais jamais. Il m'a toujours semblé que c'était avec ce que j'avais à écrire, avec le roman, avec le papier, etc., que j'avais à me débrouiller, y compris pour me connaître, enfin, y compris pour...
Salam alaikum, mes frères.
Si je relis un oui-oui aujourd'hui, je pense que je n'aurai pas la même émotion.
Je ne sens aucune conviction dans ce que tu dis. T'es convaincu de ce que tu es en train de dire, là ?
Je suis très fidèle à l'émotion que oui-oui m'a donnée.
Et blablabla, tu vois, mon regard ne bouge pas. Il n'y a aucun geste parasite. Je suis convaincu de ce que je dis.
Merci à nos invités, Abderrahmane Cissako. Timbuktu sortira en salle mercredi prochain. Olivier Rollin, le météorologue, apparu aux éditions du Seuil. Ça, c'était pour aujourd'hui. Demain ?
Il faut avoir le courage, des fois, de se retrouver seul, contrôler la vie des autres. Il faut avoir le courage de prendre l'initiative, de dire « moi, je ne suis pas d'accord ».
Demain, émission Foot Papou et Hors-Jeu avec Raymond Domenech et Patrice Delbourg. La désannonce, Hippolyte.
C'était le rendez-vous de Laurent Goumard, une émission préparée par Lucille Como, Manu Farine, Aïssetou Endoy et Hippolyte Babilote, Journal de la Culture en SOS Fès, à la prise de son Pierrick Monsigny et Juliette Delperou, et à la réalisation Thomas Beau.
Il est 19h53, vous écoutez France Culture. Mais c'est bien. Et je vais prendre mon temps pour la petite désannonce finale. Et tout de suite, je vous laisse avec Denis Podalydès de la Comédie Française. Alors bonne soirée à tous à 19h54 précisément.